Vous écoutez, on lit pour vous.
Des services aux patients passeraient à la trappe. Un texte de Fanny Lévesque, paru le 20 février 2025 dans la presse. Québec. Pour répondre à la commande de compression, des établissements de santé préparent des coupes dans les services à la population. Fermer des cliniques ouvertes durant la pandémie, réduire les activités de petites urgences et limiter des services d'aide aux adolescents font partie du lot. Ces éléments figurent sur la liste de mesures ciblées par des CI3S et CIUS dans une ultime phase d'effort budgétaire pour éliminer 1,5 milliard de dépenses, ont indiqué à la presse des sources au fait de l'avancement des plans de retour à l'équilibre budgétaire. Elles ont demandé l'anonymat parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer publiquement. Les CI3S et CIUS devaient soumettre le 1er février dernier un nouveau plan pour passer au vert. Cette fois, ces scénarios comportent des mesures qui toucheraient les services aux usagers, des options que cherche à minimiser le ministre de la Santé, Christian Dubé, comme il l'a déjà déclaré. La Société d'État examine ces jours-ci chacun des plans soumis pour s'assurer que toutes les pierres ont été retournées avant d'en arriver à ces compressions. Les CI3S et CIUS devront avoir le feu vert de Santé Québec pour aller de l'avant. Tout ce qui touche les services doit recevoir l'aval de Santé Québec, a indiqué une source haut placée du réseau. Ce n'était pas le cas pour les premières phases du régime minceur. Des établissements avaient notamment réduit les dépenses administratives et de gestion et réorganisé le travail. Des millions et des millions de dollars. Premier élément sous la loupe, la centaine de cliniques de vaccination que le gouvernement Legault a choisi de pérenniser après la crise sanitaire pour y ajouter des activités de prévention et des services de première ligne comme des prélèvements. Selon nos informations, l'intégration de ces centres, appelés des points de service locaux, PSL, pèse lourd dans les activités des CI3S et CIUS. Certains peuvent se trouver dans des centres commerciaux, par exemple. Les PSL coûtent des millions et des millions de dollars, a relaté une source. La réduction de leur nombre pourrait permettre à Québec de récupérer gros. Le gouvernement a réservé 272 millions par année jusqu'en 2028 à cette initiative qui, sur la base du succès des campagnes de vaccination, a pour objectif de désengorger le système hospitalier et d'améliorer la fluidité, l'accessibilité et la qualité des soins. Toujours selon nos sources, des établissements auraient également identifié le programme Aire ouverte du ministre Lionel Carman comme une mesure coûteuse avec peu de retombées. Des projets en développement pourraient être compromis. Ces espaces offrent aux 12 à 25 ans un lieu pour recevoir des services de santé, comme de santé mentale et sexuelle, gratuitement, sans avoir besoin de rendez-vous. Ça coûte une fortune, a souligné une source, ajoutant que ces services sont peu utilisés selon les secteurs. Le gouvernement Legault a réservé 40 millions pour implanter une aire ouverte dans chacune des régions du Québec. En environ 9 mois, d'avril 2023 à janvier 2024, 6607 jeunes ont utilisé les services, indiquent des documents des crédits budgétaires. Au 29 janvier 2024, il y avait 26 sites principaux et 12 sites satellites déployés au Québec. Selon le site du ministère, il y en aurait actuellement 47. Santé Québec a confirmé mercredi que des propositions de mesures budgétaires ont été faites par les établissements et qu'elles sont actuellement en analyse et n'ont pas encore été autorisées. Ce qui est demandé à Santé Québec n'est pas une mince tâche. Le travail se poursuit, a-t-on indiqué. La Société d'État rappelle qu'elle ne fait pas de mur à mur et qu'elle avance le plus loin possible avec chaque établissement, en fonction de sa réalité locale, pour retrouver l'équilibre budgétaire et ce, en limitant les impacts sur les soins et services à la population. Petites urgences. Les services d'urgence dans des secteurs peu populeux sont aussi à l'étude dans certains établissements selon nos informations. Des scénarios font état d'une possible diminution des heures d'ouverture, notamment. C'est le cas des urgences de Trois-Pistoles qui pourraient être fermées de soir et de nuit. Le PDG du CI3S du Bas-Saint-Laurent a vendu la mèche lors d'une récente tournée. Interrogé par des employés, Jean-Christophe Carvalho a dévoilé que cela faisait partie du plan de retour à l'équilibre budgétaire soumis à Santé Québec. L'établissement doit éponger un déficit de 34 millions, largement attribuable au recours à la main-d'œuvre indépendante. Dans ce dossier, Christian Dubé répète qu'aucune décision n'a été prise. Le rôle de Santé Québec, c'est de regarder comment on peut se rapprocher le plus de l'équilibre budgétaire dans des endroits où c'est plus difficile et de s'assurer qu'on minimise l'impact sur les services, a-t-il affirmé en chambre mercredi. Il y a deux semaines, la presse a révélé que Québec a attribué des cibles budgétaires particulières aux établissements où les déficits sont les plus élevés ou qui composent avec des enjeux particuliers comme un vaste territoire, pour tenir compte de leur réalité. Cela survenait au moment même où le ministre Dubé a jeté du lest sur les compressions, demandant à Santé Québec de faire le meilleur travail possible pour réduire le déficit projeté de 1,5 milliard. Selon nos informations, les cibles seront maintenues même si elles ne seront pas atteintes au 31 mars. L'objectif est maintenant de commencer la nouvelle année financière avec le plus petit résiduel possible. C'est comme si on commençait l'année à la fin de l'année, a illustré une source haut placée du réseau. Une autre a dit s'attendre à un tour de roue supplémentaire en 2025-2026 parce que les finances publiques seront dans le rouge pour plusieurs années. C'était « Des services aux patients passeraient à la trappe », un texte de Fanny Lévesque, paru le 20 février 2025 dans la presse.
TDAH et difficultés d'apprentissage. Faut-il retarder l'entrée à l'école pour améliorer la réussite scolaire? Un texte de Geneviève Lajoie, paru le 17 février 2025 dans le Journal de Québec. Permettre aux parents de retarder d'un an l'entrée à l'école de leur enfant pourrait améliorer leur réussite scolaire et réduire potentiellement le surdiagnostic du TDAH, selon des chercheurs. À l'heure où la médication des jeunes pour des troubles déficitaires de l'attention ne cesse d'augmenter au Québec, une étude de l'Institut économique de Montréal, IEDM, jette un pavé dans la mare. Pourquoi ne pas laisser la liberté aux parents de repousser le début du parcours académique des petits qui n'ont pas acquis la maturité nécessaire pour bien performer à l'école, surtout les plus jeunes des cohortes? C'est ce que suggère Guillaume Pouliot, professeur adjoint à la Harris School of Public Policy et au Collège de l'Université de Chicago, et Emmanuel B. Faubert, économiste à l'IEDM. Ce qu'on voit, c'est que les enfants ne naissent pas avec les mêmes capacités et, surtout, ils ne mûrissent pas à la même vitesse. Donc, chez certains enfants, commencer à 6 ans, ça fait en sorte qu'ils commencent alors qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils n'ont peut-être pas la maturité ou qu'ils ne sont pas prêts cognitivement, soutient Mme Faubert en entrevue. Et les bambins, qui connaissent des difficultés d'apprentissage dès le début du primaire, traînent bien souvent leurs problématiques une bonne partie de leur parcours académique, sans parler de l'impact des échecs sur la santé mentale et la confiance des jeunes. Plus de diagnostics de TDAH pour les élèves nés en septembre. Si la maternelle n'est pas obligatoire au Québec, la loi prescrit aux enfants d'entamer leur scolarité dans l'année suivant leur 6e anniversaire. Pour être plus précis, le bambin doit avoir fêté ses 6 ans au plus tard le 30 septembre pour entreprendre la première année du primaire. Pour déroger à cette règle, les parents doivent faire des pieds et des mains. Les démarches administratives sont ardues et doivent être appuyées par l'avis de plusieurs intervenants. Mais les chiffres sont têtus. Les élèves nés en septembre ont 35 % plus de chances de recevoir un diagnostic de TDAH que ceux nés en octobre, selon une étude du Cyrano. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau qui fait en sorte que, magiquement, les enfants qui naissent pendant l'été ont plus un TDAH, fait valoir l'économiste. Mais il y a des chances que, dans certains cas, ce soit un manque de maturité qui soit confondu avec des symptômes de TDAH. Une pratique plus répandue aux États-Unis. Le recours à une dérogation pour retarder l'entrée en classe des élèves est jusqu'ici un phénomène marginal au Québec. Mais chez nos voisins du Sud, cette pratique est beaucoup plus répandue. Entre 5 et 14 % des enfants américains du primaire ont débuté l'école plus tard que prévu. Il n'y a pas de données disponibles quant au taux de ces jeunes qui ont obtenu un diagnostic de TDAH. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont noté une amélioration des notes scolaires en mathématiques et en lecture, et entre autres chez les garçons aussi. Ils ont remarqué une baisse de l'anxiété académique, souligne Emmanuel B. Faubert. C'était TDAH et difficultés d'apprentissage. Faut-il retarder l'entrée à l'école pour améliorer la réussite scolaire? Un texte de Geneviève Lajoie, paru le 17 février 2025 dans le Journal de Québec.
Le Point d'appui lance le défi « J'appuie pour financer des travaux de rénovation ». Un texte de Jean-Michel Côtenoir, paru le 19 février 2025 dans « Ici, Abitibi-Témiscamingue ». Le Point d'appui lance une campagne de financement afin d'adapter sa nouvelle maison aux personnes à mobilité réduite. L'organisme, qui vient en aide aux femmes et adolescentes ayant vécu une agression à caractère sexuel, a déménagé dans de nouveaux locaux à Rouyn-Noranda l'an dernier. Les travaux, qui visent à rendre l'endroit accessible à toutes, sont évalués à près de 150 000 $. Tout au long du mois de mai prochain, la population sera invitée à bouger et à amasser des fonds dans le cadre du défi J'appuie. C'est d'amener les gens à se mobiliser, à s'activer et à amasser des fonds par le défi J'appuie. Le défi va être réalisé du 1er au 31 mai. On demande aux gens de cibler, soit en temps ou en kilomètres, des activités actives. Les personnes peuvent décider de faire de l'escalade, de jouer au tennis, de faire de l'entraînement en salle, de faire de la course, du vélo. Ils se choisissent une activité avec un objectif et amassent des fonds avec l'objectif qui a été établi, explique Judy Nourry, intervenante et gestionnaire au Point d'appui. Également intervenante et gestionnaire au sein de l'organisme, Renée Maude-Robin souligne que la demande a grandement augmenté au cours des dernières années. La demande a triplé dans les dernières années, tant au niveau de l'intervention individuelle que du groupe de soutien. On a besoin de nouvelles salles pour les relations d'aide et on a aussi besoin de rampes d'accès pour les fauteuils roulants et les femmes à mobilité réduite. C'est sûr que le défi J'appuie va nous aider à payer la facture de ces rénovations-là, mentionne-t-elle. Renée Maude-Robin affirme que le défi a également pour objectif de faire connaître davantage l'organisme et sa mission. Le défi J'appuie se veut aussi un moment où la population de Rouyn-Noranda va s'engager dans la cause des agressions à caractère sexuel et va nous permettre un rayonnement au niveau de la population pour se faire connaître un peu plus. Le défi a vraiment un double objectif. Dans la lignée de cet objectif, de mieux faire connaître l'organisme et les services qu'il offre, Judy Nourry souligne que tant les entreprises que les particuliers sont invités à participer au défi. La population peut s'inscrire de façon individuelle ou en équipe. On demande aux entreprises de se mobiliser pour venir en support à notre organisme et aussi en même temps, c'est un beau défi pour les équipes de travail, c'est rassembleur. De cette façon-là, elle se positionne aussi contre les violences à caractère sexuel, fait-elle observer. Madame Nourry indique que l'organisme souhaite attendre l'an 2 de l'initiative avant de fixer un objectif financier. On n'en a pas établi parce que, comme c'est nouveau, on veut voir quelle sera la réponse, on veut se faire connaître avant tout. Mais c'est sûr que l'ampleur des rénovations peut jouer entre 100 000 et 150 000 $. C'est quand même un gros montant, rappelle-t-elle. C'était « Le point d'appui lance le défi J'appuie pour financer des travaux de rénovation », un texte de Jean-Michel Côtenoir, paru le 19 février 2025 dans « Ici, Abitibi-Témiscamingue ».
Une campagne pour mettre fin à la stigmatisation au sujet de la maladie mentale. Un texte d'Amélie Simard-Blouin, paru le 15 février 2025 dans Ici Mauricie Centre du Québec. La clinique Neuractive lance sa nouvelle campagne S'unir pour la santé mentale, allège ton sac, au profit de la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre du Québec. Cette initiative a pour but de mettre fin à la stigmatisation à propos de la maladie mentale, tout en proposant des outils pour diminuer le poids de la charge mentale portée au quotidien. La clinique a mis cette campagne sur pied avec la collaboration de partenaires dans le but de sensibiliser et d'éduquer la population au sujet des problèmes de santé mentale. Il y a une grosse augmentation de cas de maladie mentale, autant chez les adultes que chez les jeunes, dit Pierre-Philippe Normand de la clinique Neuractive, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pour leur venir en aide, des étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en ergothérapie à l'UQTR vont produire des capsules qui serviront à sensibiliser la population et qui apprendront aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale à alléger leur charge mentale. Il y a des outils qui existent et il y a beaucoup de personnes qui y ont recours, heureusement, et ça gagne à être connu, assure l'ambassadeur de la campagne et président de la Fondation Jeunesse Mauricie et Centre du Québec, André Gabia. Il s'agit de montrer qu'il est possible de gérer cette question-là et de ne pas attendre qu'il soit trop tard et qu'on soit en situation d'épuisement, renchérit M. Gabia. La clinique Neuractive s'est mobilisée en mettant sur pied la campagne « S'unir pour la santé mentale » qui a pour slogan « Allège ton sac ». On voulait que les gens prennent conscience de la charge mentale du quotidien, mais surtout qu'ils mettent en place des choses concrètes pour s'outiller dans leur quotidien, explique Alexeux Desaunier, ergothérapeute et chargé de cours en ergothérapie à l'UQTR, à l'origine de ce projet, dans une vidéo publiée sur la page de la clinique Neuractive. Elle croit que l'ergothérapie en santé mentale peut assurément aider à alléger la charge mentale. Neuractive a pour objectif d'amasser des fonds pour cette fondation qui vient en aide aux jeunes qui présentent des risques de vulnérabilité dans leur développement vers la vie adulte. Pour ce faire, des sacs sont mis en vente au coût de 20 $ l'unité. Tous les profits iront à la Fondation qui appuie plus de 4000 jeunes en Mauricie et au centre du Québec. Il est possible de se procurer un des deux modèles de sac directement à la clinique multidisciplinaire de l'UQTR, à l'atelier QG ou sur son site web. D'après une entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin, c'était une campagne pour mettre fin à la stigmatisation au sujet de la maladie mentale, un texte d'Amélie Simard-Blouin, paru le 15 février 2025 dans Ici Mauricie, Centre du Québec.
lits dans les CHSLD privés conventionnés sont à risque de fermer, alerte l'AEPC. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 février 2025 dans Le Devoir. Faute de financement adéquat, 1200 des 7600 lits qui existent dans les CHSLD privés conventionnés, c'est-à-dire subventionnés par l'État, pourraient fermer, avertit l'association qui représente les propriétaires de ces établissements. L'augmentation des frais de fonctionnement dont ceux qui sont liés à la nourriture et aux équipements, fait mal aux propriétaires des centres de soins de longue durée, souligne Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés, AEPC. À l'approche du dépôt du budget 2025-2026 du Québec, le regroupement demande donc au gouvernement de le financer adéquatement afin qu'il soit en mesure d'offrir un milieu de vie de qualité aux aînés qui sont vulnérables. Nous voulons être capables d'acheter des légumes et des fruits frais plutôt qu'en conserve, illustre-t-elle. Le fait d'avoir une bonne alimentation est crucial pour les personnes âgées qui ont une santé fragile, soutient Mme Lavoie. Quant à la fermeture de 1200 lits, elle aurait des conséquences importantes, affirme-t-elle. Présentement, il y a des listes d'attente importantes pour les gens qui veulent entrer en hébergement. C'est sûr que si on vient ajouter 1200 personnes à ces listes, ce n'est pas glorieux. Jointe par Le Devoir, la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, a dit avoir demandé à son équipe de rencontrer rapidement l'AEPC pour bien comprendre les enjeux. Elle ajoute poursuivre le conventionnement des établissements privés dans la province. À l'heure actuelle, 19 des 37 CHSLD privés que Québec s'est engagé à conventionner d'ici fin 2025 sont désormais financés par l'État. En mai 2022, dans un rapport sur les nombreux décès survenus dans des centres d'hébergement pour aînés au début de la pandémie de COVID-19, la coroner Jeanne Kamel avait recommandé le conventionnement de tous les CHSLD privés. C'était 1200 lits dans les CHSLD privés conventionnés sont à risque de fermer, alerte l'AEPC. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 17 février 2025 dans Le Devoir.
Chambly. Annabelle représente un modèle d'intégration. Un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 17 février 2025 dans Le Journal de Chambly. La vie avec la neurofibromatose n'empêche pas Annabelle de sourire, une qualité à laquelle s'accorde son entourage pour la définir. La fillette de 6 ans est atteinte de neurofibromatose. Cette maladie se caractérise par des anomalies des muscles, des os et de la peau. Annabelle se déplace avec un déambulateur. Citation. Elle devrait être en fauteuil, mais ça ne va pas assez vite. Fin de citation. Raconte en riant Jessie Dufault-Marcoux, maman d'Annabelle. Sa neurofibromatose est accompagnée d'un handicap physique qui n'est pas nécessairement lié à sa maladie. Annabelle mentionne toutefois au journal ne pas se sentir différente des autres enfants. Pour se rendre à la bibliothèque de l'école, elle franchit l'escalier. Citation. « Je m'accroche à la rampe pour monter et je descends sur les fesses. » Fin de citation, explique-t-elle. Lorsque les marches sont sèches. 3 mois au Shriners. L'an dernier, Annabelle a manqué plusieurs jours d'école. Elle est demeurée 3 mois à l'hôpital Shriners pour enfants. Un halo crânien lui a été installé. La traction par halo est généralement la première étape de la correction, notamment d'une scoliose grave. Le traitement sert à corriger les affections graves de la colonne vertébrale. Les enfants restent à l'hôpital pendant toute la durée de la traction. Après une traction par halo, les enfants subissent principalement une chirurgie de fusion spinale pour stabiliser définitivement la colonne vertébrale. Les médecins des hôpitaux Shriners pour enfants utilisent ce traitement pour tirer délicatement la tête et la colonne vertébrale de l'enfant vers le haut en appliquant un étirement lent. Le traitement fonctionne en attachant un anneau métallique qui entoure la tête, halo, à un système de poulies. Pendant ce séjour, les camarades d'Annabelle sont venus la visiter à quelques reprises. Elle a également reçu des vidéos d'encouragement. La maman estime que de sa naissance à ses 2 ans, Annabelle a passé environ 400 jours à l'hôpital. Aujourd'hui, les visites au centre hospitalier sont plus sporadiques. Chaque semaine, une physiothérapeute passe du temps avec l'enfant. Citation. Il faut qu'elle fasse tous les jours des étirements, mais le soir, elle est trop fatiguée. C'est vraiment difficile. C'est sûr que c'est plate. Ça ne lui tente pas tout le temps. Fin de citation, convient Mme Dufault-Marcoux. Faire comme les autres. Danser, chanter et socialiser font partie intégrante des activités d'Annabelle. Elsa, de la Reine des Neiges, nomme celle qui raffole des princesses en parlant de la chanson qu'elle aime fredonner. Citation « Il n'y a rien dans la classe qu'elle ne fait pas comme les autres. » Fin de citation, assure Alex de Mersnoiseux, l'enseignante de première année d'Annabelle à l'école Jacques de Chambly. Sa classe ne compte que 18 élèves. Cela facilite la situation en termes d'espace. Citation « J'ai la chance d'avoir quelques bureaux de moins. Il faut toujours s'assurer qu'il y ait des corridors pour que la marchette circule. » Fin de citation, affirme l'enseignante. Elle ajoute que les autres élèves sont volontaires pour aider. Citation « Il faut même leur dire qu'Annabelle est capable de faire les choses par elle-même. » Fin de citation, rappelle Madame de Mersnoiseux. À l'extérieur, avec la présence de la neige, l'aide peut s'avérer précieuse. Carole Leclerc, préposée aux élèves handicapés qui s'occupent de la petite, est toujours aux côtés du bureau adapté d'Annabelle. Un autre enfant vivant avec un handicap a tracé le chemin pour Annabelle. L'équipe école est aguerrie devant cette réalité. Citation « L'école est équipée. On est devenu un référent. On a même un élève du centre de service scolaire Marie-Victorin qui vient au service de garde. » Fin de citation, décrit Catherine Doyon, directrice de l'école Jacques de Chambly, qui prône l'ouverture comme valeur essentielle de son établissement. Citation « Elle a été très bien intégrée dans son milieu. Elle n'a jamais été mise à l'écart. » Fin de citation, confirme la mère d'Annabelle. Soutenue par les plus grands. À l'école, les gardiens de ballon ont la responsabilité de veiller à ce que les projectiles n'atteignent pas la tête des autres. Leur rôle prend en importance pour protéger Annabelle. Citation « On a des grands qui sont extraordinaires et qui disent de faire attention à sa tête. » Fin de citation, souligne la directrice. L'été, Annabelle fait de la bicyclette. Là encore, les plus grands la soutiennent. Citation « Les jeunes de sixième année la voient passer en vélo sur notre rue et la félicitent en lui lançant des « top là ». Je les vois parfois avoir de l'attitude, mais jamais envers Annabelle. Je trouve ça beau à voir. » Fin de citation, remarque la maman, qui a un garçon en sixième année et un autre en première secondaire. Elle soutient que celui de sixième année est protecteur avec sa petite sœur. Lorsqu'on lui demande si ses frères sont plus tannants qu'elle, Annabelle est catégorique et répond négativement à la question, toujours avec son sourire. C'était Chambly, Annabelle représente un modèle d'intégration. Un texte de Jean-Christophe Noël, paru le 17 février 2025 dans Le Journal de Chambly.